Bonjour, je suis heureux de voir que le premier cours n'a pas découragé trop de personnes de revenir. C'est très encourageant pour moi, en tout cas. Alors, aujourd'hui, on va parler de réseaux convolutifs et un ensemble de techniques, bien sûr, qui est extrêmement utilisé dans l'industrie ces jours-ci. Donc, je vais parler pendant une heure et puis, par la suite, on aura un séminaire de Stéphane Mala, de l'École normale supérieure, qui va nous parler de la théorie mathématique qui sous-tend les réseaux convolutifs, un travail que je trouve très intéressant en ce qui me concerne, probablement un des premiers travaux sur les questions théoriques autour de l'apprentissage profond. Alors, je vais commencer par terminer un petit peu le cours de la semaine dernière présenter les sujets qui sont propres au réseau convolutif et commencer par dire que les techniques dont on a parlé la dernière fois d'assemblage de blocs pour l'apprentissage profond qui permettent de rétropropager des gradients à l'intérieur des blocs ne s'appliquent pas strictement aux architectures dont on a parlé la dernière fois dans lesquelles les blocs sont assemblés de manière séquentielle dans une pile, une espèce de cascade d'empilement. On peut en fait arranger ces blocs d'à peu près de n'importe quelle manière du moment que le graphe d'interconnexion des blocs n'est pas de boucle. Donc dans la mesure où les blocs n'ont pas de boucle, on peut assigner un index à chacun des blocs de manière à ce que les entrées d'un bloc soient toujours disponibles au moment du calcul. Donc il y a un ordre de calcul si le graphe est orienté et sans circuit, qui permet de calculer les sorties à partir des entrées. Et bien sûr, on utilise l'ordre inverse pour rétropropager les gradients. Donc dans la phase avant, on calcule les sorties à partir des entrées. Dans la phase arrière, on calcule les gradients par rapport aux entrées, étant donné les gradients par rapport aux sorties. Alors, quelquefois, bien sûr, on veut utiliser des réseaux avec boucle, ce qu'on appelle les réseaux récurrents. Et les réseaux récurrents ouvrent la porte à tout un tas d'applications qui ne sont pas possibles autrement. Je ne vais pas en parler beaucoup cette fois-ci, je vais juste montrer une petite diapo. En fait, il y aura un cours entier là-dessus, plus un séminaire dans les semaines qui viennent. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai une annonce à faire que je ne veux pas oublier de faire et que je vais peut-être répéter à la fin. C'est que l'heure du cours doit changer. La raison étant que vous êtes si nombreux qu'on voudrait pouvoir continuer à utiliser cet amphithéâtre, qui n'est malheureusement pas disponible à cette période de temps dans les semaines qui viennent. Donc on va être obligé de déplacer l'heure du cours au segment de 11h du matin à 1h de l'après-midi. Donc en général, un cours de 11h à midi et un séminaire de midi à 1h. Donc ce sera bien sûr changé sur le site web, mais je voudrais vous l'annoncer pour à partir de la semaine prochaine. Alors il y a quelques questions pratiques autour de la rétropropagation qu'il est important de savoir. On peut naturellement utiliser n'importe quelle non-linéarité dans les réseaux de neurones, mais ce qui est arrivé récemment, par le passé, on utilisait ce qu'on appelle la tangente hyperbolique, qui est une fonction sigmoïde, et on s'est aperçu en fait qu'au niveau optimisation numérique, ça posait des problèmes. Quand les sigmoïdes se saturent, les gradients deviennent très petits et le système n'apprend pas très vite, donc ça crée des plateaux dans la fonction de coût dont il est très difficile de sortir. Donc, ces dernières années, les gens sont plutôt concentrés sur l'utilisation des fonctions qu'on appelle RELU, donc c'est ce qui est un espèce d'acronyme qui veut dire Rectified Linear Unit en anglais. C'est en fait une demi-rectification, c'est-à-dire, j'en ai parlé la dernière fois, une fonction qui vaut 0 quand son argument est négatif et qui vaut l'identité quand son argument est positif. Très souvent, quand on entraîne des réseaux à faire de la classification, on utilise une fonction de coût qu'on appelle la cross-entropie, enfin l'entropie relative, qui est une bonne idée quand on fait la classification. C'est une généralisation pour le cas des réseaux neurones des fonctions de coût qu'on utilise en régression logistique multinomiale. Donc c'est une fonction dont j'ai parlé la dernière fois dans le contexte de softmax et logsoftmax. Donc quand je parlais de la fonction de coût du moins log softmax la semaine dernière, en fait on peut voir ça comme une mesure d'entropie relative d'une distribution de probabilité désirée en sortie par rapport à la distribution produite par le système sur les classes. Comme je l'ai mentionné auparavant, on utilise le gradient stochastique Et très souvent, on utilise le gradient stochastique avec des mini-batch. On en a parlé aussi au cours de la session des questions, où on regroupe un certain nombre d'exemples ensemble. On calcule toutes les sorties, tous les états pour tous ces exemples. On fait la rétropropagation pour chacun de ces exemples et on moyenne les gradients, la contribution des gradients de chaque exemple avant de faire une mise à jour. La raison pour ça n'est pas du tout une raison théorique ou ça ne présente aucun avantage, sauf que ça rend l'exécution des réseaux de neurones beaucoup plus facile à paralléliser sur les GPU. Donc on a un petit peu de mal à saturer les capacités de calcul des GPU si on n'utilise pas ces mini-batchs. Typiquement, la taille est entre 32 si on tourne sur un GPU jusqu'à à peu près 1000 si on tourne sur des GPU multiples en parallèle. L'optimal est en fait d'utiliser une taille de batch de 1 si on veut vraiment accélérer l'apprentissage, indépendamment de toute considération matérielle. Il faut bien sûr mélanger les exemples d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir tous les exemples d'une classe, tous les exemples d'une autre classe, etc. Il faut que les classes soient mélangées quand on fait du gradient stochastique, sinon le système n'apprend pas, pour des raisons relativement simples à comprendre. C'est une bonne idée de normaliser les entrées de manière à ce que les variables aient plus ou moins, soient plus ou moins de moyenne 0 et de variance, disons, connue, disons 1. Ça pourrait être un autre chiffre qu'on choisit, mais par convention, on peut choisir 1. Il y a des techniques de régularisation telles que le dropout que j'ai expliqué brièvement la dernière fois, qui est dû à Hinton et son groupe. Donc c'est une technique qui consiste à, quand on fait le calcul d'un réseau, à en fait faire le calcul comme si la moitié des unités d'une couche particulière n'existait pas. Donc on prend, c'est en fait implémenté dans Torch et dans d'autres systèmes comme une couche supplémentaire, et le rôle de cette couche supplémentaire, c'est aléatoirement pour chaque exemple d'éliminer la sortie de la moitié des unités dans cette couche. Et la raison de la motivation pour faire ça, c'est en fait de régulariser le système de manière à ce qu'aucune unité particulière ne soit trop importante en fait dans la prise de décision, et que la prise de décision soit distribuée sur toutes les unités. Il y a aussi un petit argument théorique par lequel le résultat du dropout est que à la fin, quand on calcule la sortie complète du système sans faire ce dropout, donc en utilisant toutes les unités, on a d'une certaine manière la sortie correspondant à la moyenne d'un ensemble, d'un très grand nombre de réseaux neuronaux dans lequel des sous-ensembles différents d'unités auraient été tués. Donc ça donne une régularisation assez bonne qui, en général, réduit la différence entre l'erreur de test et l'erreur d'apprentissage. Ça donne quelques pourcents, mais ça marche sans. Donc il y a plein d'autres trucs et des ruses. Quelques-unes sont écrites dans l'article de 98 que j'ai écrit avec Léon Botou, Klaus Robert Müller, qui s'appelle Efficient Backprop, et plein d'autres trucs de ce type-là aussi dans un ouvrage édité par Klaus Robert Müller, Jenny Orr, qui est aussi une co-auteure de l'article, et Grégoire Montavon, qui regroupe tout un tas de techniques intéressantes pour l'apprentissage profond. Mais ce genre de choses se démode assez vite, donc ça bouge assez vite. Alors, j'avais expliqué un petit peu comment créer un réseau de neurones avec un outil du genre de Torch. D'autres outils, genre Keras et autres, utilisent en fait des syntaxes très similaires. Donc, on crée une espèce de conteneur dans lequel on va ajouter des modules. On ajoute des modules qui sont des modules linéaires, des modules de non-linéarité, des modules de pooling, etc. Donc, ça, c'est un réseau de neurones à deux couches très standard, avec un softmax en entrée ou un log softmax en entrée et un critère de negative log likelihood qui correspond en fait à cette histoire de cross-entropie dont je vous parlais précédemment. Donc très facile de créer un réseau. Et puis ensuite, pour l'entraîner, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce code, il y a plein de tutoriels en fait disponibles sur l'utilisation de Torch et d'autres outils similaires. que vous pouvez regarder, mais en gros, c'est une boucle qu'il faut définir à l'avance, qui calcule la fonction de Cook. On passe ensuite à un optimiseur qui fait une itération de gradient conjugué. Et la manière dont on construit cette fonction d'évaluation, c'est celle qui va prendre un mini-batch, évaluer le réseau neurone sur ce mini-batch, et puis faire les rétropropagations, et va retourner la valeur de la fonction de Cook ainsi que le gradient de la fonction de Cook vis-à-vis des paramètres. Et donc c'est une fonction encapsulée qui est une fermeture en fait, pour ceux d'entre vous qui savent ce que c'est au niveau informatique, et qui va être passée à l'algorithme d'optimisation qui va faire une itération d'optimisation, puis on met ça dans une boucle dans laquelle on passe sur tous les mini-batchs avec un critère d'arrêt. Donc ça prend une page, c'est très simple. En deux pages, on peut spécifier un réseau de neurones et puis l'entraîner, et c'est très flexible. Alors, ce système Torch est basé sur un langage de programmation qui s'appelle Lua, qui est extrêmement simple à apprendre, qui ressemble beaucoup à Python, mais qui est beaucoup, beaucoup plus simple, dans lequel il n'y a qu'une seule structure de données vraiment compliquée, qui sont des tables de hash, qui servent aussi de tableaux, etc. Donc utilise Lua comme langage d'interface. Ça utilise les meilleures bibliothèques les plus rapides pour faire tourner les réseaux convolutifs et les réseaux de neurones. Une certaine partie est écrite en C ou C++. C'est très facile en fait d'interfacer ses propres fonctions C ou C++ à Lua. Et puis il y a toute une grosse bibliothèque de manipulation et de calcul sur des tableaux multidimensionnels, un petit peu comme NumPy. Et plein de bibliothèques pour créer des réseaux convolutifs, des réseaux récurrents, des choses de ce type-là. Donc c'est le système qui est principalement utilisé pour la recherche et le développement en apprentissage profond par Facebook, par DeepMind, donc qui est une filiale de Google à Londres, par Twitter. Les développeurs principaux de Torch en fait travaillent à Facebook, DeepMind et Twitter. Bien sûr, à NYU, beaucoup d'autres universités en Europe et aux États-Unis, au Canada, et plein de start-up. Je suis sûr qu'il y a des membres de start-up ici à Paris qui utilisent Torch. Personne ici? Voilà, au moins deux. Le site principal, c'est torch.ch. Il y a un site qui regroupe des liens sur tout un tas de ressources pour Torch. Et si vous êtes un petit peu rebuté par l'idée d'apprendre un nouveau langage, c'est tellement simple en fait que quelqu'un a écrit une page qui vous permet d'apprendre ce langage en 15 minutes. C'est vraiment, ça prend 15 minutes, ça ne prend pas plus. En tout cas, ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser ça. Voilà, donc maintenant je vais passer aux histoires de transformation de paramètres pour les réseaux profonds. Alors, on peut empiler des boîtes pour créer un réseau, mais on peut aussi avoir des boîtes qui transforment non seulement les entrées vers les sorties, mais qui transforment des paramètres avant que des paramètres soient utilisés dans des boîtes fonctionnelles. Donc on voit un exemple ici, disons que c'est un réseau de neurones un petit peu classique ici, et puis qui est contrôlé par un vecteur de paramètres W, qui rentre dans une fonction de Cook, donc quelque chose de très classique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer l'espace de paramètres de manière à ce que les paramètres dans lesquels on va faire l'optimisation sur ces paramètres U, qui sont à partir desquels on peut obtenir W à travers une transformation G. Et bien sûr, il suffit de faire la rétropropagation à travers ce bloc de la même manière qu'on le fait à travers n'importe quel bloc. Donc rien de complexe au niveau de la création du système ou de son optimisation. Et je vais parler d'exemples particuliers. Donc il y a un exemple particulier de transformation de paramètres qui est le partage de paramètres. Donc par exemple, on pourrait imaginer que dans ce réseau, il y a plusieurs paramètres individuels, par exemple des poids individuels de plusieurs unités dans ce réseau neurone, qui en fait doivent tous prendre la même valeur. On veut imposer la contrainte que tous ces poids aient la même valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un paramètre, une valeur qu'on va partager, qu'on va distribuer dans tous les poids ou les connexions qui veulent partager ce paramètre. Et bien sûr, on a vu la dernière fois que ça, c'est pas autre chose qu'un bloc, de dédoublement, enfin une espèce de connexion en Y. Et ce qu'on sait, c'est que quand on a une connexion en Y qui partage qui distribue une valeur, quand on fait la rétropropagation, il faut faire la somme de toutes ces valeurs pour obtenir le gradient par rapport au paramètre total. Donc le gradient par rapport à un U particulier et la somme des gradients par rapport à tous les W là, qui sont contrôlés par ce U particulier. Je vous parle de ça parce que cette histoire de partage de paramètres est ce qu'on utilise dans les réseaux convolutifs auxquels je vais venir dans quelques minutes. Juste pour mémoire, un exemple d'architecture qui commence à être de plus en plus utilisé, qu'on appelle maintenant les architectures à tension, et qui sont apparues il y a plusieurs décennies dans le contexte de ce qu'on appelle les mixtures d'experts. Donc on peut imaginer qu'on ait soit un réseau avec plusieurs sorties, soit plusieurs réseaux qu'on peut considérer comme des experts sur des sous-problèmes particuliers, dans des régions de l'espace par exemple. Donc peut-être ce réseau-là reconnaît un type de voiture parmi toutes les voitures, celui-là un type de camion parmi tous les camions, celui-là un type de moto parmi toutes les motos, mais au départ on ne sait pas si c'est une moto, un camion, une voiture. Donc ici on a un autre réseau qui décide si ce qu'on voit sur l'entrée est un camion, une voiture ou une moto. Mais bien sûr, il y a des tas de choses qui sont un petit peu ambiguës. Il y a quelquefois des voitures un peu grosses qui ressemblent à des camions, des pick-up trucks, ou il peut y avoir des motos avec trois roues ou quatre roues qui ressemblent aux voitures. Donc, on ne veut pas décider a priori de quel expert va se charger de chaque catégorie. On va laisser ça, on va laisser le choix de ça à cet autre réseau-là, qui est aussi entraînable, qui a des paramètres entraînables. Donc, ce réseau, la sortie passe à travers un softmax, donc qui sort des valeurs qui sont toutes positives et qui somment à 1. Donc c'est une espèce de pondération, de coefficient d'une moyenne, si vous voulez. Et puis la sortie ultime du système sera la somme pondérée des sorties de chacun de ces blocs, qui peuvent chacun être des vecteurs, pondérée par ses poids, dont la somme est 1, donc ça nous calcule une moyenne pondérée. Et donc ce système-là en fait, décide lequel ou lesquels de ces experts va décider de la sortie. De cette manière, on appelle ça une mixture d'experts. Et on peut. Donc il suffit d'avoir un module qui sait multiplier des vecteurs par des scalaires, un module qui sait faire un softmax. Ici, ça peut être un réseau de neurones ou quoi que ce soit. Ici, ça peut être des réseaux de neurones ou quoi que ce soit, peu importe ce qu'on met dedans. Et on entraîne juste ça avec une rétropropagation de gradient sans se préoccuper de comment le faire. Le système de rétropropagation des gradients va s'en occuper tout seul. Du coup, on a un système qui peut. Diriger l'attention en fait du système global sur un expert particulier ou sur une zone particulière. Ce genre d'architecture est maintenant pas mal utilisé pour des problèmes de production de légendes pour des images par exemple, ou pour des problèmes de traduction automatique dans lequel l'entrée est une phrase qu'on peut voir comme une séquence de vecteurs représentant chaque mot, et dans lequel pour aller chercher le mot dans la phrase cible, il faut un mécanisme qui permet d'activer le mot correspondant dans la phrase d'entrée. Donc, par exemple, si on traduit du français en allemand, la position du verbe va probablement beaucoup changer dans la phrase. Donc, il faut, au moment où il va falloir produire le verbe dans la phrase allemande, qui va très probablement être à la fin, il va falloir aller chercher le bon mot à traduire dans la phrase française correspondante. Et on peut utiliser des mécanismes comme ça qui choisissent l'entrée appropriée. Ce type d'architecture est aussi utilisé dans ce qu'on appelle les memory augmented networks, donc les réseaux dont on a augmenté l'architecture avec des mémoires. Et on peut voir ça comme une espèce de mécanisme d'adressage d'une case mémoire particulière. Alors c'était une parenthèse. Maintenant je vais passer un petit peu au début des réseaux convolutifs. Alors très souvent on a besoin d'appliquer des systèmes d'apprentissage sur des signaux qui ne sont pas simplement des vecteurs de caractéristiques non structurées, mais qui sont soit des séquences, soit des tableaux. Des tableaux, donc à une dimension, si ce sont des séquences, à deux dimensions, si ce sont des images, à trois dimensions, si ce sont des volumes ou des vidéos, etc. Donc là, on se place dans le cadre d'une dimension, dans laquelle on veut faire une espèce de prédiction de séquence temporelle. Donc on observe trois valeurs ici d'une séquence, sur une séquence temporelle, et on essaie de prédire la valeur instantanée d'une autre séquence. Donc imaginons que ça, par exemple, sont au hasard des valeurs de monnaie, par exemple, ou d'instruments financiers, et puis on veut prédire est-ce qu'on doit acheter, vendre, etc. Donc évidemment, il y a une technique très simple et très naturelle qui consiste à opérer avec une fenêtre glissante sur le signal, c'est-à-dire que le système regarde une fenêtre du signal et puis on l'entraîne simplement à prédire la valeur. Et puis chaque exemple est une fenêtre différente. C'est une idée bien naturelle. Beaucoup de gens ont utilisé ça en bioinformatique, par exemple, pour l'analyse de séquences biologiques ou pour des modèles de langage. Donc les modèles de langage sont construits de cette manière-là, dans lequel chaque mot est représenté par un vecteur. Et dans un modèle de langage, on essaie de prédire le mot suivant dans un texte. C'est très utile quand on fait, par exemple, de la reconnaissance de l'écriture, de la reconnaissance de la parole, pour avoir un modèle de langage, quel mot peut suivre tel autre ensemble de mots, ou même par ailleurs pour faire la compréhension du langage naturel et des choses de ce genre-là. La grosse question est qu'est-ce qu'on met dans la boîte ? Alors maintenant, passons à l'idée des réseaux convolutifs. C'est le fait que, au lieu de voir ce réseau comme en fait juste un exemple qui regarde juste une fenêtre, on va regarder plusieurs copies de ce réseau, si vous voulez, à des instants successifs. Donc voilà une représentation de ça, dans laquelle ici on a une série d'unités qui regardent un voisinage de donc deux variables d'entrée sur trois échantillons temporels. Chacun calcule une somme pondérée de ces entrées et passe ça par une non-linéarité. Chaque unité dans cette couche, donc les trois unités ici, ont des ensembles de poids différents que je n'ai pas dessinés. Et à l'instant suivant, la même série d'unités qui maintenant regarde la fenêtre suivante va faire la même opération, etc. Et on va répéter ça plusieurs fois. On pourrait imaginer que si on veut rendre cette architecture profonde, que l'étage suivant en fait prenne le résultat de ces unités à des instants suivants et fasse la même chose, c'est-à-dire calcule une somme pondérée sur une fenêtre pour calculer ses sorties. Et encore une fois, à l'instant suivant, on prend la même fenêtre décalée d'un cran. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toutes ces unités à des instants suivants différents sont en fait la même unité à des instants différents. Donc les paramètres doivent être partagés entre eux. Cette unité-là est la même que celle-là, et la même que celle-là, ses poids sont les mêmes. Donc on tombe sur un réseau, une fois déplié, si vous voulez, dans lequel les poids sont partagés. D'où la raison pour laquelle je vous ai parlé de cette histoire de partage de paramètres auparavant. Donc c'était un petit préliminaire pour avant de parler plus explicitement de réseau convolutif. Donc l'idée de réseau convolutif, naturellement, comme je en ai parlé dans la leçon inaugurale, si vous l'avez vu, est que on veut construire un système hiérarchique et utiliser le fait que les motifs dans des images, dans des signaux naturels, ont de grandes chances d'être compositionnels, c'est-à-dire très corrélés localement, mais pas trop corrélés à longue distance. Il y a un petit peu l'inspiration biologique du fait qu'on veut aussi des systèmes hiérarchiques qu'on observe dans le système visuel. Le fait que dans le système visuel, les neurones qui sont dans les aires du cortex primaire ici sont connectés en fait sur des régions très très locales du champ visuel. Donc il y a des neurones dans V1 qui réagissent à des contours d'orientation particulière, à un endroit particulier du champ visuel. Et ce type de détecteur en fait est répété dans tout le champ visuel. Donc on a le même type de neurones en fait qui regarde une zone différente, mais qui détecte en gros le même motif à plusieurs zones du champ visuel. Alors cette idée de répliquer un détecteur sur tout le champ visuel, donc il y a la même idée de translater en fait un détecteur ici dans le temps. Mais si ce tableau est bidimensionnel, on va répliquer ces unités en fait dans toute la sur toute la surface. Donc cette idée de répliquer des filtres en fait est assez ancienne. Elle date non pas de Hubel et Wiesel, qui étaient des gens des neurosciences, mais de Fukushima. Aucune relation avec l'accident nucléaire au Japon. Enfin, si, une relation peut-être géographique, mais monsieur qui s'appelle Kunihiko Fukushima, qui, à l'époque où il a fait ce travail, travaillait au laboratoire de recherche de la NHK, qui est la compagnie de télévision japonaise. Et il a construit un modèle qu'il a appelé le cognitron, le néo-cognitron, qui était en fait qui consistait à avoir organiser les neurones simulés, si vous voulez, en plans successifs. À l'intérieur d'un plan, tous les neurones partagent le même poids, donc détectent le même motif à des endroits différents de l'image. Chaque plan détecte un motif différent, et c'est suivi par ce qu'on appelle donc c'est, en fait c'est celle-là, suivie par ce qu'on appelle des cellules complexes, enfin c'est une nomenclature qui vient de Hubbell-Wiesel. Ces cellules complexes font une opération d'agrégation. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. En ce qui concerne, j'ai commencé à travailler avec ces modèles à la fin des années 80, quand j'étais encore postdoc à Toronto, et puis j'ai vraiment fait marcher ça en arrivant à Bell Labs à la fin de l'année 88, au départ pour des choses comme des applications comme la reconnaissance de caractères manuscrits. Et c'était un des premiers systèmes à pouvoir être entraîné de bout en bout avec des pixels en fait, directement, sans extraction de caractéristiques, pour reconnaître des caractères manuscrits. Alors voilà un réseau convolutif typique de cette époque, donc ça date de la fin des années 80 typiquement, enfin, 90, je pense que cette figure vient d'un papier de NIPS 1989. Alors on prend une image d'entrée, qui est un tableau bidimensionnel, chaque pixel bien sûr est représenté par une valeur, 0 si c'est blanc, 1 si c'est noir, et on organise la première couche en plan dans lequel chaque unité à l'intérieur d'un plan, donc les plans s'appellent en anglais feature map, donc carte de caractéristiques peut-être en français, chaque unité dans ce plan, donc chaque pixel ici est en fait l'activation d'une unité particulière dans ce plan, donc on va prendre celle-là par exemple qui est blanche, et le résultat du produit scalaire des valeurs dans ce voisinage avec ses poids. Donc ça, c'est une représentation des valeurs de poids, noir pour positif, blanc pour négatif. Et on calcule le produit scalaire de ce voisinage avec ses poids, ce qui nous donne cette valeur, après passage en une non-linéarité, dans ce cas-là une sigmoïde, mais on peut imaginer une relue dans les versions modernes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit poids qui s'appelle un noyau de convolution et on va le glisser sur l'entrée et pour chaque position calculer la valeur correspondante en sortie. Donc les activations qu'on voit ici en fait sont le résultat de ce calcul de produit scalaire, donc somme pondérée de ces valeurs par ces poids pour tous les voisinages sur l'entrée. Cette opération est une convolution discrète d'un point de vue mathématique. C'est une petite animation que j'ai volée à André Capati, qui est étudiant à Stanford, qui a écrit un petit bout de JavaScript là, pour faire des activations. Vous pouvez aller voir ça sur son site. Il a fait un cours à Stanford sur les réseaux convolutifs. Donc on peut voir cette opération-là. On prend ce noyau de convolution, on calcule les produits scalaires avec chacun des voisinages et on écrit les résultats dans la carte de sortie correspondante. Donc ici, l'entrée n'est pas un seul plan, mais une série de trois plans. Donc par exemple, si on regarde une image couleur à trois canaux, rouge, vert, bleu. Donc ça pourrait, ces trois plans pourraient correspondre à ces trois canaux, rouge, vert, bleu. On applique les trois noyaux convolution et on calcule leur somme, et c'est cette somme en fait qu'on écrit dans la sortie correspondante. Ensuite, on va prendre trois autres noyaux convolution, on va les passer sur ces images encore, et on va écrire les sommes dans une autre carte de caractéristiques. Donc c'est très facile, c'est une opération linéaire, très facile à implémenter. Et la rétropropagation à travers cette opération est très simple, comme je vais vous montrer dans un... Alors, pour le calcul de la rétropropagation, c'est exactement la même chose que dans un module linéaire, dans lequel il faut... calculer le gradient en passant par la transposée de la matrice ou l'opérateur linéaire en question. Donc pour faire la rétropropagation, il suffit de faire en fait des convolutions à l'envers dans lesquelles on prend les noyaux de convolution, on fait la convolution avec ses sorties et en les déplaçant à tous les endroits, si vous voulez, en multipliant par ses poids, on écrit les résultats là-dedans. Et donc c'est exactement comme une convolution, excepté que c'est comme si cette image était l'image d'entrée auquel on aurait rajouté une bordure de zéro, si vous voulez, et la convolution se fait avec ces noyaux de convolution et on écrit le résultat dans l'entrée et c'est comme ça qu'on calcule le gradient. En fait, les valeurs qu'on va utiliser ici pour calculer le gradient en rétropropagation sont les gradients qui viennent de l'étage suivant. Voilà un autre exemple de réseau convolutif. Ici, voilà la première couche, donc qui est le résultat de six convolutions de 6 noyaux de convolution avec l'entrée. Chacune de ces cartes détecte en fait un motif particulier. Donc on peut voir que celle-là, par exemple, s'active principalement pour des contours qui sont orientés un petit peu dans cette direction et pas trop pour des contours verticaux, par exemple, où là, il y a très peu d'activation. Il y a toujours une espèce de bipolarité de l'activation dans lequel un filtre va s'activer positivement à un endroit particulier d'un contour et puis négativement un petit peu décalé. Donc chacun de ces filtres en fait fait une opération un petit peu différente. Et puis ce qu'on va faire par la suite, c'est l'opération d'agrégation ou de pooling, et le rôle de cette opération est de construire un petit peu d'invariance dans la représentation vis-à-vis de translation ou de distorsion de l'image. C'est-à-dire que si ici on prend une forme et on la translate de 2 pixels, celle-là va aussi être translatée de 2 pixels parce que le calcul ici est équivariant par translation, c'est-à-dire que le résultat est inchangé quand on translate l'entrée, sauf qu'il est aussi translaté. Mais si on translate ça de 2 pixels, ce résultat-là va translater de 1 pixel. Comment on fait ça ? On fait ça par sous-échantillonnage, donc on prend un voisinage d'unités ici, 2 par 2 par exemple, on calcule sa moyenne ou son maximum ou sa norme L2, c'est-à-dire le racine carré de la somme des carrés, ou la racine PM de la somme des valeurs à la puissance P, quelque chose comme ça. Et on écrit la valeur ici, et ensuite on décale cette fenêtre, par exemple, de 2 pixels. Donc si on la décale de 2 pixels, cette carte va avoir la moitié de la résolution de cette carte. Si cette carte fait 32 pixels de haut, celle-là va faire 16 pixels. Donc si on translate cette forme d'un pixel, celle-là va être transformée d'un demi-pixel. Ou si on transforme celle-là de 2 pixels, celle-là de 1 pixel. Le résultat, c'est que cette opération en fait, élimine un petit peu d'informations sur la position de l'apparition des caractéristiques sur l'entrée, ce qui fait qu'on peut faire une petite distorsion de l'entrée et changer très peu le résultat de cette représentation. On va répéter ce processus. Donc c'est très similaire à ce que j'expliquais la dernière fois, où on fait d'abord une expansion de la dimensionnalité de manière non linéaire, ensuite une agrégation qui réduit la dimensionnalité et qui recolle les morceaux qui sont sémantiquement similaires. Donc là, la notion de similarité sémantique est attachée au fait que des formes qui sont un petit peu distordues l'une par rapport à l'autre sont en fait le même objet. Donc si vous êtes plus porté sur les mathématiques, attendez le séminaire de Stéphane Mala qui vous expliquer tout ça en grand détail. Alors ici, on va répéter la même opération ici, où cette carte, chaque valeur de cette carte en fait, est obtenue par convolution avec un noyau de convolution qui fait 5 par 5 dans ce cas-là, sur la carte précédente, mais aussi qui va être combinée avec des cartes, avec les autres cartes. Donc ici, on va avoir 6 noyaux de convolution qui sont appliqués sur ces 6 cartes simultanément, qui sont additionnés et ensuite passés par une non-linéarité pour produire celle-là. Cette autre carte ici utilise 6 autres noyaux de convolution. En fait, dans ce réseau particulier-là, ce n'est pas une connexion complète 6 vers 16, mais c'est un sous-ensemble, mais peu importe. Et on répète l'opération de pooling, enfin d'agrégation et de sous-échantillonnage pour réduire de nouveau les résolutions. Donc maintenant, si ça a été translaté de 2 pixels, ça va être translaté d'un demi-pixel. Et encore une fois, une convolution, etc., etc. Ici, on arrive à une convolution dont la taille verticale du noyau est de la même taille que l'image d'entrée, ce qui fait que l'image de sortie ne fait que 1 pixel de haut. Elle fait plusieurs pixels de large, donc on a plusieurs choses. Chaque tranche verticale correspond, voit une fenêtre d'entrée de 32 par 32 qui est décalée sur l'entrée. Voilà, donc c'est cette idée qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les couches, on réduit la résolution spatiale et on augmente le nombre de types de caractéristiques, de feature maps. Et on arrive à une représentation qui est un petit peu délocalisée. Donc si on regarde, encore une fois, ce qui influe, la partie de l'entrée qui influe une unité particulière ici, à ce niveau, et qu'on regarde ce qui l'influe, c'est en fait une fenêtre 32 par 32, donc relativement grande. Donc c'est ça le principe architectural d'un réseau convolutif. On fait quelquefois une normalisation. Alors maintenant, il y a plusieurs méthodes de normalisation qu'utilisent les gens. Il y a une méthode très, très usitée qui s'appelle batch normalization. Donc c'est une normalisation qui n'est pas sur un exemple individuel, mais dont les coefficients de normalisation se calculent sur un mini-batch, typiquement une centaine d'exemples. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, je vous encourage à lire ça, mais bon, par ailleurs, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste utiliser le module Bash Normalisation dans Torch ou dans les outils que vous voulez utiliser pour ça. Donc, qui normalise les entrées, qui enlève les moyennes pour que les valeurs aient des moyennes plus ou moins proches de zéro, qui normalise les variances, etc. Ensuite, un band filtre. Donc, ce qu'on appelle un band filtre, en fait, est exactement similaire à cette série de noyaux convolution qu'on applique sur une image et qui produit les feature maps. Une non-linéarité point à point, donc scalaire, typiquement relu, cette fonction, max de x est 0. Et ensuite, l'agrégation, donc le feature pooling, qui typiquement, dans les systèmes utilisés à l'heure actuelle, sont un max sur une fenêtre, quelquefois un max sur plusieurs feature maps, donc on regroupe plusieurs feature maps en une seule en faisant un max sur plusieurs feature maps. En fonction de la manière dont on fait ça, certaines personnes appellent ça max out, mais bon, les détails sont un petit peu différents. On veut faire une norme LP, donc prendre chacune des valeurs qu'on veut agréger, l'élever à la puissance P, ensuite prendre la racine PM. Et puis il y a d'autres règles de pooling, du genre 1 sur b log de somme exponentielle bx, donc c'est le log somme exponentielle dont j'avais parlé aussi la dernière fois, qu'on peut voir comme une espèce de somme de probabilité dans le domaine du log. Donc ça, c'est un module de base qu'on va répéter plusieurs fois, et puis à la fin, le classifieur en fait n'est pas de nature différente, c'est juste une autre bande filtre avec une non-linéarité, rien de plus. Donc il n'y a pas vraiment de distinction claire entre la partie extraction de caractéristiques et la partie classification, tout ça c'est un continuum d'échelle. Donc voilà comment on crée un réseau convolutif en Torch, c'est vraiment très simple aussi, on crée un module séquentiel et puis on rajoute dans ce module séquentiel qui est dans la variable modèle un module de convolution spatiale, un module de tangente hyperbolique, un module de pooling, convolution spatiale, tangente hyperbolique, pooling, etc. Et puis ensuite ce qu'on appelle des couches complètement connectées, c'est pour créer cette petite architecture qui avait été avec laquelle on a expérimenté dans les années 90 pour faire la reconnaissance de caractères, qu'on appelait le Net 5. Voilà. Alors, on peut rentrer dans les détails de comment calculer les gradients à l'intérieur d'une couche convolutive, mais d'une certaine manière, maintenant, tout ça s'est implémenté dans des modules, on n'a plus besoin de trop se préoccuper de comment c'est fait. Et c'est relativement simple de voir comment faire ça de toute façon. Alors, il y a une caractéristique vraiment intéressante des réseaux convolutifs qui est que, à cause du fait que chaque opération est une convolution, d'une certaine manière, ce sont des réseaux à taille variable, à géométrie variable, si vous voulez. Donc, si je prends une fenêtre dans une image qui, par exemple, représente un caractère ou, disons, un morceau de l'image dans lequel on peut avoir un objet complet, on peut construire un réseau convolutif qui va prendre cette fenêtre, qui va faire des convolutions, des agrégations, etc., et qui va sortir un vecteur de classification, en fait, qui va sortir, bah, par exemple, un score pour chacune des classes. On peut entraîner ça de manière supervisée avec une rétropropagation, aucun problème. Maintenant, très souvent, quand on fait de la reconnaissance d'image, on ne veut pas simplement identifier des formes simples en isolation, mais on veut pouvoir d'abord reconnaître plusieurs objets dans une grande image. Donc, si on fait par exemple de la détection de visage ou du comptage de moutons, comme un des exemples que j'ai montré pendant la leçon inaugurale, il faudrait pouvoir avoir un détecteur qu'on passe sur toute l'image. Donc, un exemple simple ici, c'est pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite où un mot en fait est composé de plusieurs caractères, mais on ne peut pas savoir vraiment a priori où sont les caractères. Donc une manière de gérer le problème est de prendre le réseau convolutif et de l'appliquer à toutes les fenêtres possibles et pour chaque position de l'entrée, enregistrer la sortie correspondante. Donc on aura un score pour chaque catégorie de caractères, de A à Z, si on fait de la lecture optique. Et pour chaque position où on met ce réseau convolutif, on aurait un score qui nous dirait c'est peut-être un C, entre les deux, je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être un I, et puis ensuite on va voir le U, on va avoir peut-être un W ici, et puis ensuite un R, etc. Donc on va avoir beaucoup de scores en fait, pour chaque position, pour des caractères. Ensuite, il va falloir un post-traitement, si vous voulez, pour essayer d'extraire l'interprétation la meilleure de tous ces scores. Mais une caractéristique vraiment importante des réseaux convolutifs est le fait qu'on n'a pas besoin de recalculer le réseau complet à chaque position. La raison étant que si on prend le réseau convolutif placé sur la partie gauche de cette image, donc il va correspondre à une tranche de ce réseau-là, en fait, exactement de cette même taille, et ensuite on le déplace de quelques pixels pour calculer la sortie suivante, si vous voulez. Une grosse partie du réseau en fait a déjà été calculée, on n'a pas besoin de le recalculer, on a juste besoin de calculer la nouvelle tranche. Et donc quand on assemble toutes ces versions translatées du réseau convolutif sur l'entrée, en fait on s'aperçoit que ce qu'il suffit de faire, c'est de faire la convolution sur l'entrée complète. Donc au lieu de faire la convolution sur une petite image et d'obtenir une petite feature map en sortie, on fait la convolution sur l'image entière, on obtient une feature map plus grande qui est en fait l'union de toutes les positions possibles de cette feature map à tous les endroits. Et on fait ça pour toutes les couches. Et on considère la dernière couche également comme une convolution. Donc dans ce cas-là, en fait, cette convolution a été appliquée à un seul endroit, parce qu'il y a seulement la place pour un seul endroit. Mais ici, en fait, on peut l'appliquer à tous les endroits possibles. Et donc on se retrouve avec une série de sorties, chacune étant influencée par une fenêtre différente sur l'entrée, déplacée d'un certain nombre de pixels. Le nombre de pixels par lequel cette fenêtre va être déplacée correspond au taux de sous-échantillonnage, le produit des taux de sous-échantillonnage de toutes les couches de pooling en fait, à l'intérieur du réseau. Alors, c'est un énorme avantage, ça, parce que ça permet effectivement à un réseau convolutif d'abord de détecter, de reconnaître des objets multiples, comme des mots, enfin des caractères dans un mot, mais aussi de détecter des objets en contexte avec une fenêtre glissante sur une grande image. Donc voilà un exemple d'utilisation de ça pour la reconnaissance de caractères, et ça date encore des années 90, dans lequel on a entraîné un réseau convolutif en fait, individuel, qui a juste une fenêtre de 32-32. Ici, cette fenêtre fait 32 par 64. Bon, en fait, j'ai coupé les bords, donc elle fait un peu moins de 64, mais théoriquement, elle fait 64. Donc on a entraîné un réseau convolutif avec une fenêtre 32-32 à classifier les 10 catégories de caractères, mais on l'a aussi entraîné à classifier un caractère qui est au centre en présence de caractères sur les côtés. Donc on montre non seulement un caractère au centre, mais quelquefois aussi d'autres caractères sur les côtés pour essayer d'habituer le système en fait, à voir des caractères sur les côtés qui pourraient porter à confusion. Et puis on l'entraîne par ailleurs à ne pas classifier une forme en une des 10 catégories de caractères, ici ce sont des chiffres manuscrits, lorsque le caractère n'est pas bien centré dans l'image. Donc on l'entraîne avec des caractères qui sont pas centrés, ou avec des trous entre les caractères, on entraîne le système à dire c'est ni un 0, ni un 1, ni un 2, ni, etc., ni un 9. Et là, donc après entraînement, on applique ce réseau convolutif avec cette entrée qui peut être de taille variable. La seule différence, c'est qu'en sortie, on va se retrouver avec plusieurs sorties. Et ce que je dessine ici, c'est la catégorie qui gagne, donc qui a le score le plus élevé, et le niveau gris indique le score, d'une certaine manière. Donc plusieurs de ces détecteurs en fait, détectent le 5 ici, deux d'entre eux, et il y a plusieurs détecteurs qui détectent le 3, et quand les deux formes se recouvrent, il y a une petite hésitation, et puis d'un seul coup, ça passe de 5-3 à 3-5 avec un point d'interrogation en plein milieu. Alors, l'avantage de ça, ce que ça montre, c'est qu'on peut entraîner un réseau convolutif en fait, à faire de la reconnaissance en contexte et surtout de ne pas être perturbé par des formes qui sont autour, par un contexte, et ce qui nous permet de ne pas avoir à faire de la segmentation. Alors, la segmentation, c'est un processus en vision par ordinateur qui consiste à d'abord détecter l'objet qu'on veut reconnaître, l'isoler de son contexte, et ensuite le présenter à un classifieur pour représenter l'image. Mais il s'avère que la segmentation en fait, est un problème au moins aussi compliqué que la reconnaissance et qu'on ne peut pas le faire correctement sans reconnaissance. Ce type d'entraînement permet de complètement éliminer la nécessité de faire la segmentation préalable et, parce qu'on peut reconnaître plusieurs objets simultanément. Voilà un autre exemple que j'avais montré aussi pendant la leçon inaugurale qui montre les capacités du système à faire ce qu'en anglais on appelle feature binding. Donc c'est un problème que les gens qui font des neurosciences, auxquels les gens qui font des neurosciences se sont intéressés, se sont demandé quel mécanisme neuronal dans le système visuel permet d'assembler des contours ou des caractéristiques pour former un objet. Et donc c'est ce qu'on appelle le problème du feature binding. Et en fait, simplement, il suffit d'avoir quelques couches avec des non-linéarités, et ça a l'air de se faire tout seul, sans mécanisme vraiment spécifique pour ça. Donc les réseaux convolutifs sont... À quoi sont bons les réseaux convolutifs? Ils sont bons pour les signaux qui vous arrivent sous forme de tableaux multidimensionnels ou une dimension, de tableaux multiples. Donc un signal temporel, une séquence, ça inclut le texte par exemple, la parole, etc. Une image, un tableau bidimensionnel, ou une représentation temps-fréquence pour un signal auditif, par exemple, ou musical. Des images, bien sûr, des images couleurs, des images multibandes, multispectrales, des images tridimensionnelles, soit parce que ce sont des images volumétriques, soit parce que ce sont des vidéos, donc il y a une dimension temporelle. Et on peut imaginer tout un tas d'autres choses, donc des images à quatre dimensions, dans lesquelles c'est une vidéo tridimensionnelle, par exemple, certaines imageries médicales produisent des vidéos à trois dimensions, volumétriques. Donc tout ce qui vient sous forme d'un tableau. Alors, qu'est-ce qui fait que l'architecture de réseau convolutif est intéressante pour ça? C'est une caractéristique des données naturelles qui fait que, dans la plupart des données naturelles qui viennent sous forme de tableaux, il y a de très fortes corrélations locales. Donc des variables qui sont à l'intérieur d'un petit voisinage sont fortement corrélées. Dans une image, il y a de fortes chances pour que deux pixels voisins dans une image aient des couleurs similaires, sauf s'il y a un contour. Mais c'est rare, relativement rare. Donc les valeurs voisines sont très corrélées. Et ça veut dire qu'on peut représenter un voisinage de pixels de manière relativement compacte par une série de valeurs, peut-être en nombre plus faible que le nombre de pixels qu'on observe. Donc ça conduit à cette idée de traitement local, de connexion locale, en fait, de détecteur qui regarde un patch local de l'image. Ensuite, il y a l'idée d'invariance par translation et distorsion, le fait que si on fait une petite distorsion d'une image, en fait, on ne change pas la nature de l'objet qu'on regarde. Et donc, c'est cette idée de pooling qui élimine un petit peu d'information de position des features et qui permet d'avoir un petit peu d'invariance, de smoothness, quoi, comme on dit en bon français. Donc voilà un exemple d'application qui remonte à loin, à l'époque où j'étais en visite à Thomson CSF dans les années 90, où on peut passer un réseau convolutif sur une image à l'échelle multiple, et ce réseau convolutif a été entraîné à sortir une sortie élevée, donc positive, dans le cas où un visage se trouve dans sa fenêtre, et disons moins élevée quand il n'y a pas de visage. Donc si on regarde ces cartes-là qui sont à grande échelle, la zone d'influence la taille de la fenêtre que regarde le réseau en fait est plus petite que les visages, donc le réseau sera un petit peu n'importe quoi, c'est pas très intéressant, mais aux échelles un peu plus grossières, on voit des détections très claires de ces deux visages-là, et puis à une échelle encore plus grossière, ou peut-être un peu moins, la détection de l'autre. Donc ça remonte à loin. Plus récemment, on a fait un travail un petit peu similaire avec Rita Osachi, qui est maintenant en Israël. Sur la détection de visage, il y avait un travail similaire qui a été fait à peu près en même temps, un petit peu à l'avance, par Christophe Garcia, qui est maintenant, à l'époque, était au CNET, à France Télécom, qui maintenant est à l'INSA de Lyon, et Makis Delakis, sur la détection de visage et l'estimation de pose par réseau convolutif. Encore une image que j'ai montrée durant la leçon inaugurale. Et bien sûr, des applications de ce genre de choses, non seulement à la détection d'objets, mais à la segmentation sémantique, ou la classification de régions ou de pixels individuels. Donc voilà un exemple, c'est un travail qui a une dizaine d'années maintenant, un peu plus d'une dizaine d'années, sur l'identification de zones particulières dans des images. C'est ce qu'on appelle la microscopie DIC, je sais pas comment ça s'appelle en français, dans lequel on a un embryon de vers, de nématodes qui se développe. On voudrait bien compter le nombre de noyaux, de cytoplasmes, le nombre de cellules, etc., pour voir si l'animal se développe normalement. C'est pour faire du phénotype, en fait, en biologie. Et donc on peut entraîner un réseau convolutif à faire ça, qui prend une fenêtre assez grande de contexte pour décider de la nature d'un pixel particulier, et puis un petit peu de nettoyage pour arriver à compter le nombre de cellules et de noyaux, etc. Il y a un travail très similaire qui a été fait plus récemment par le laboratoire de Sébastien Tsang à MIT, enfin il est maintenant à Princeton, sur l'identification de régions dans des images tridimensionnelles de tissus nerveux pour faire la connectomique, c'est-à-dire pour arriver à reconstruire le circuit neuronal d'un petit morceau de tissu nerveux. Et les réseaux convolutifs sont devenus une méthode un petit peu standard pour ce genre d'expérience en biologie. Et puis un exemple dont j'ai parlé aussi dans la leçon inaugurale de classification sémantique, donc qui consiste à classifier chaque pixel d'une image avec la catégorie de l'objet à laquelle il appartient. Donc c'est une expérience aussi relativement ancienne qui date entre 2010 et 2012, et dans lequel on veut classifier chaque pixel par une catégorie, mais bien sûr on ne peut pas vraiment décider de la nature d'un pixel sans regarder le contexte. Donc par exemple ici, si on regarde un pixel gris ici, un pixel gris sur le camion, un pixel gris dans le ciel, un pixel gris sur les cheveux ou la chemise de la personne ici, il faut regarder un contexte assez grand pour arriver à déterminer la nature de ce pixel gris. Est-ce que c'est la route, est-ce que c'est la chemise, est-ce que c'est le camion ou le ciel. Donc la technique utilisée ici est encore une fois un réseau convolutif qui regarde la même image à plusieurs échelles. Donc il regarde à une échelle fine, la taille de l'entrée du réseau convolutif est 46 par 46, mais on va l'appliquer avec une fenêtre glissante, donc on se retrouve avec un gros réseau convolutif qui sort une carte de caractéristiques à 250 canaux, et puis ensuite un vecteur de probabilité sur les catégories pour chaque position de cette fenêtre dans l'entrée. Mais en fait, cette fenêtre de 46-46 n'est pas assez grande pour pouvoir décider de la nature du pixel central. Et donc, on applique le même réseau à des échelles plus grossières, d'un facteur 2, d'un facteur 4. On passe par le même réseau convolutif, puisque bien sûr, la taille s'adapte à la taille de l'entrée, on fait la convolution sur une image plus petite. À la fin, on suréchantillonne les caractéristiques pour les ramener toutes à la même taille, et on concatène tout pour rentrer ça dans l'étage de classification qui fait la décision des catégories pour chaque fenêtre d'entrée. Donc à chaque fois qu'on déplace cette fenêtre d'un pixel, on attend un petit peu pour celle-là. Quand on a déplacé celle-là 2 pixels, celle-là se déplace d'un pixel. Quand on a déplacé celle-là 4 pixels, celle-là se déplace d'un pixel, etc. Et en entraînant tout ce système de A à Z, on arrive à avoir un système qui classifie chaque pixel. Ensuite, on peut faire un petit peu de nettoyage avec un traitement dont je ne vais pas rentrer dans les détails. On a appliqué ça à des images d'intérieur, ça marche relativement bien aussi. Et puis ça, c'est encore une vidéo que j'avais montrée à la leçon inaugurale que je ne vais pas vous remontrer. Donc ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens en fait, qui ont repris ces techniques maintenant, qui l'ont appliquée à des bases de données beaucoup plus grandes que celles qu'on avait à l'époque. Aussi, maintenant, on a accès à des GPU auxquels on n'avait pas accès à l'époque. En tout cas, du code GPU qui est très efficace. Donc ce système-là, en fait, à l'époque où il a été... disons publié dans les années 2012, avait une meilleure précision que tous les systèmes concurrents sur 3 bases de données, et aussi était à peu près 100 fois plus rapide. Mais pour vous montrer, donner une idée de la sociologie de la science, qui est, je trouve, un système, un aspect assez intéressant, cet article a été rejeté en fait de la conférence de Vision, bien que les performances soient supérieures au niveau vitesse et précision. Et la question était que les examinateurs de l'article n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'un réseau convolutif. En fait, ne pouvaient pas croire que le résultat pouvait être aussi bon avec une technique dont ils n'avaient aucune connaissance. Donc il y a des phénomènes intéressants de sociologie de la science qui sont, je suis sûr que les gens écriront sur la question par la suite, mais qui fait qu'il y a une certaine résistance naturelle. Hein, c'est pas du tout pour me plaindre que je dis ça, c'est pour indiquer que il y a une résistance naturelle aux nouvelles idées dont il faut se méfier un petit peu quand on fait partie de la science, y compris quand on est examinateur d'articles et qu'on relit des articles qu'on critique. C'est très facile en fait de ne pas voir l'intérêt de nouvelles idées et de ne pas comprendre la motivation de gens. J'ai été programme chair de cette conférence, de ce congrès quelques années auparavant, donc j'étais un peu placé dans la position inverse auparavant. Donc c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est une dynamique dont il faut tirer parti. Voilà. Donc on peut utiliser ça bien sûr pour faire le pilotage de robots, pour faire la conduite de voiture, pour faire la reconnaissance d'objets. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on assiste à une espèce de fuite en avant maintenant des réseaux convolutifs, dans lequel les réseaux convolutifs modernes ont de plus en plus de couches. Alors, les deux systèmes qui en fait ont les meilleurs résultats dans la compétition ImageNet de classification d'objets en 2014 avaient soit une vingtaine de couches, donc convolution, max pooling, convolution, etc. Ça, ce sont des couches qu'on appelle fully connected ou complètement connectées. En fait, on peut voir ça comme des convolutions un par un, si on veut voir ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau VGG, c'est l'acronyme qui désigne un laboratoire à l'Université d'Oxford, qui a expérimenté avec ces architectures. Et la même année, un réseau proposé par Google, qu'ils ont appelé GoogleNet, ou GoogleNet, enfin, c'est un petit peu compliqué de savoir comment le prononcer, donc c'est un jeu sur le mot LeNet, qui est le nom que j'avais donné, mes collègues à Bell Labs avaient donné au réseau convolutif des années 90, qui utilise ce qu'on appelle l'architecture d'inception, Inception Architecture, dans lequel un module qui se répète, qu'on empile, constitué de plusieurs couches avec des tailles de convolutions variées, qui ensuite sont toutes concaténées, poulées, etc. Et puis on répète le module plusieurs fois. Donc ça conduit à un réseau qui est extrêmement profond, mais finalement qui a relativement peu de paramètres, qui était l'avantage en fait que recherchait Google pour pouvoir faire tourner ces réseaux sans occuper trop de mémoire sur leur serveur. Et puis la dernière compétition, ImageNet, et une autre compétition qui s'appelle COCO, organisée par Microsoft, a abouti à ce réseau qui s'appelle ResNet, qui a été produit par le laboratoire Microsoft Research en Asie, à Beijing. C'est un réseau avec 150 couches, 152 couches précisément. Enfin, il y en a plusieurs versions, avec 30 couches, 50 couches, 100 couches, 150 couches. Et avec cette idée que, en fait, quand on empile des couches, on a un gros problème qui fait que les gradients ne se propagent pas bien dans les couches. Si une couche a des poids qui sont proches de zéro, quand on multiplie les gradients qui viennent d'en haut par la transposée de cette matrice ou par les filtres transposés, si vous voulez, les gradients deviennent petits et à fur et à mesure qu'on rétropropage les gradients dans les couches, le gradient s'amenuise et à la fin, on n'a plus rien. Donc, c'est ce qui conduit à la difficulté d'entraîner des réseaux très profonds. Alors, l'idée de ResNet, en fait, c'est d'avoir des connexions qui jouent à saut de mouton. Et ces connexions, en fait, sont des connexions identité, qui sont égales à 1 et qui ne font que copier la valeur qui est ici deux couches après, tout simplement. Donc là, il y a un chemin pour le gradient qui peut passer à travers ces connexions sans se dégrader, si vous voulez. Et en fait, on peut interpréter la fonction de chacun de ces petits modules comme étant la fonction identité. Donc il faut que toutes ces couches aient la même taille, sinon ça ne marche pas. En fait, le seul endroit où on a le droit de changer la taille, c'est cet endroit-là où on n'a pas vraiment de connexion identité, on a juste une connexion standard, linéaire, entraînable. Donc on peut interpréter la fonction de chacun de ces petits modules comme la fonction identité avec une déviation non linéaire qui est réalisée par les deux couches qu'on a sautées par ces connexions saute-mouton. Et c'est ce qui permet d'entraîner des réseaux avec un nombre de couches phénoménal. Et ça marche très très bien. On ne sait pas très bien pourquoi, mais ça marche vraiment très bien. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, il me reste exactement une minute. Donc on a parlé de détection d'objets, de sémantique, je voudrais juste parler d'une chose, tout ça en fait c'est plutôt des diapos dont je vais parler dans une leçon future. Mais je voudrais parler juste d'une chose maintenant, c'est le fait que maintenant on utilise des réseaux convolutifs non seulement pour l'analyse d'images, mais aussi pour la génération d'images. Et encore une fois, c'est quelque chose dont je vais reparler dans le futur quand on va parler d'apprentissage non supervisé dans les deux derniers cours. Mais je veux juste montrer un exemple ici qui est vraiment intéressant. C'est Dozovitsky et ses collaborateurs qui ont entraîné un réseau convolutif dans lequel les couches ne font pas du sous-échantillonnage, mais elles font du sur-échantillonnage. Donc on part d'une couche qui est juste un vecteur à qui on donne une dimension spatiale par une espèce de suréchantillonnage à chaque couche. Et donc c'est une espèce de réseau convolutif inversé, si vous voulez. L'idée remonte à très loin, elle remonte à... il y a un article de Patrice Simard et de moi-même, Abel Labs, qui remonte au début des années 90, qui utilise une idée similaire pour faire la génération de séquences, enfin, pour produire des séquences de trajectoires. Plus récemment, il y a le modèle de réseau déconvolutif de mon collègue Rob Fergus à NYU, qui avait utilisé ça pour une espèce de modèle génératif pour la reconnaissance d'images. Mais là, c'est vraiment pour produire des images. Alors, ils utilisent un moteur de synthèse graphique qui a des modèles 3D de chaises, par exemple, et ils entraînent ce réseau convolutif à produire l'image d'une chaise à partir des paramètres d'instanciation de la chaise, c'est-à-dire la catégorie de la chaise, parce qu'il y a plusieurs catégories possibles de chaises, le point de vue et les paramètres de transformation, c'est-à-dire l'orientation de la chaise, son échelle, etc. Et ils entraînent deux réseaux convolutifs relativement indépendants l'un de l'autre, un à produire un masque de la chaise et l'autre à peindre la chaise en masque. Et ça marche vraiment très très bien. À la fin, on peut, en faisant varier les valeurs qu'on rentre ici, prendre une chaise, la faire tourner, calculer des chaises qui sont des espèces d'interpolations linéaires entre plusieurs chaises, donc on peut faire varier l'orientation, la taille, et puis des paramètres un petit peu non linéaires, et puis faire de l'arithmétique sur les chaises pour... prendre un fauteuil, soustraire un autre fauteuil et puis rajouter une chaise, et puis ça fait une chaise qui ressemble au fauteuil initial, bon, etc. Il y a une autre technique similaire dont je parlerai aussi au cours des cours sur l'apprentissage non supervisé qui s'appelle apprentissage adversaire, qui est un petit peu encore plus bluffante en fait, parce qu'on n'a pas besoin de fournir des paramètres d'instanciation. Donc un autre travail de Cocarni consiste à construire une espèce d'auto-encodeur. Donc on met une image à l'entrée, on passe par un réseau convolutif, on donne une idée des valeurs d'instanciation de l'image. Donc par exemple, si c'est des images de visage, on va donner la pose, l'illumination, l'identité de la personne, etc. Donc entraîner ce réseau à transformer l'image en paramètres d'instanciation et ensuite avoir un autre réseau génératif qui prend ces paramètres d'instanciation et qui reproduit l'image. Et ensuite on a une espèce d'auto-encodeur qui permet de produire des images, d'interpoler entre elles, etc. etc. et à partir d'une image particulière, faire tout ça. Voilà, je vais arrêter ici et donner la parole à Stéphane. Et puis vous remercier de votre attention.